Au quotidien, avec Hélène Denis.
Il me semble que ça fait une éternité que je n'ai pas été au micro. Ça me fait plaisir d'être avec vous, chers auditeurs et chères auditrices, en ce 17 mars 2026.
Saint-Patrick!
Joyeux Saint-Patrick! Et c'est Saint-André qui l'a dit aussi.
Oh non! Je n'ai pas cette prétention-là.
Non, mais André, vous m'avez fait rire, là, parce que, bien, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, là, mais vous vous êtes fait dépasser par un bag à récupération.
Incroyable.
Ce matin.
Oui, oui, tout à fait. Il allait plus vite que moi.
Non, mais c'est le vent. Je ne sais pas s'il vente dans votre secteur ou là où vous vivez, mais à Montréal, c'est fou. Moi, j'ai fait une course à obstacles tout le long. J'ai descendu Saint-Denis. Il y avait des déchets partout. C'est le grand ménage qui commence.
Oui, c'est le recyclage ce matin dans plusieurs quartiers.
Oui,
donc,
oui, mais aussi la ville de Montréal là, qui commence son opération grand ménage quand la neige va être fondue. Là. Mais il y a de la glace aussi. Donc, ce n'est pas une partie de plaisir. Là. Rouler
et marcher.
Et marcher. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de ramassage, de détritus à faire et de bacs aussi à remettre sur les trottoirs. Là. Toutes sortes de bacs en compost, recyclage, vidange, déchets. Alors, c'est pas une partie de plaisir, mais j'allais dire quand on se compare, on se console.
Oui, exactement.
Ouais, ouais. Mathieu, vous, est-ce que vous avez perdu le nord en vous en venant?
Non.
Une chaîne de bessic.
Oui, non, c'est un câble de frein.
Un câble de frein. Oh. Hey, pauvre lui. Ben, tu sais, Mathieu, il roule en vélo de 1915 ou 16.
Avant Jésus-Christ.
Oui, alors il est retourné à pied, avec son vélo à pied. Il est revenu à pied, il a perdu sa tuque. Alors, c'est un matin comme ça où il y a beaucoup d'action. Quand on se raconte ces histoires-là, c'est toujours rigolo, mais quand on les vit, c'est moins drôle.
Ouais,
c'est un
exactement.
Peu plus énervant. Alors, cela dit, joyeux Sainte-Patrick à tous ceux et celles qui ont du sang irlandais. Il y en a pas mal au pays. Et aujourd'hui, on a aussi de bons invités, une belle émission bien chargée. J'aurai le plaisir de recevoir, il est dans la presse d'aujourd'hui, on l'a entendu un petit peu partout, parler de son rôle de Glenn Gould au Théâtre du Rideau Vert. C'est demain que la pièce commence, les représentations devant public. La première médiatique aura lieu lundi prochain. Glenn Gould, naissance d'un prodige, et Maxime de Cotteret a eu la gentillesse. Il devait venir en studio la semaine dernière, mais Canal M a fermé ses bureaux pour cause de pluie verglaçante. Alors, il a eu la gentillesse de revenir, de dire oui à un deuxième rendez-vous. Donc, ce matin, il sera avec nous. Nous recevrons aussi Marie-Claude Duguay-Arsenault, qui est une autrice, une amoureuse de la Gaspésie et qui viendra nous parler du livre « 300 raisons d'aimer la Gaspésie ». Elle a fait un road trip avec son amie Manon Lapierre et ça donne un livre extrêmement intéressant et tellement beau. Ça nous donne envie de partir vers la Gaspésie. Et puis, la chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Anne-Marie aussi qui est de retour de congé. Elle viendra nous parler d'un livre qu'elle a beaucoup aimé, signé Isabelle Lapointe, intitulé « Épinette ». La chronique économie avec Michel Poitvin qui va nous expliquer l'application Wealth Sample. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Michel en sait pas mal là-dessus. Il nous parlera aussi d'inflation. Et puis André qui est là pour nous parler de mots, M-O-T-S. Ce matin, la petite histoire de mots qui viennent d'ailleurs.
Oui, des quatre coins du monde.
Oui.
C'est une drôle d'expression, ça.
Oui, le monde a quatre coins.
Ben, il ne tourne pas très rond, le monde, de ce temps-ci.
Non, non,
plutôt
ça,
carré,
c'est ça.
Donc,
ouais.
Quatre coins du monde.
Une table de billard.
Ouais. Quelques-uns d'origine française, mais d'autres d'origine autre. Assez diverses. Un menu varié.
Alors, ça s'en vient dans quelques minutes, dans cette demi-heure, qui est déjà bien entamée. Et on commence avec une chanson de Zao de Sagazan.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer. de les retenir. Ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Sao de Sagazan, la symphonie des éclairs.
Merci Mathieu. À la une du Journal de Montréal de ce 17 mars 2026, déménagement estimé à 1 milliard, un autre hôpital tombe en ruine. C'est en pages 4 et 5 du journal d'aujourd'hui. Infiltration d'eau, patients des soins intensifs dans le corridor, tuyaux de construction dans une chambre. Un autre hôpital montréalais est complètement vétuste, dénonce la direction qui réclame son déménagement pour un coût estimé à 1 milliard de dollars. Les gens n'en reviennent pas à quel point ça fait dur, avoue la docteure Lucie Poitras, médecin conseil au Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM. Le statu quo n'est pas viable. Le Neuro, anciennement appelé Institut neurologique de Montréal, est vétuste à plusieurs niveaux, a constaté le journal lors d'une visite vendredi dernier. Il s'agit du dernier exemple en lice d'hôpitaux désuets après Maisonneuve-Rosemont et l'Institut Douglas notamment. Plusieurs fois par mois, des problèmes d'infiltration d'eau surviennent dans la bâtisse construite en 1934. Lors de grosses pluies, les égouts refoulent dans une section de l'hôpital située à proximité de l'ancien hôpital Royal Victoria. La situation est tellement catastrophique qu'on a dû condamner une section de la nouvelle pharmacie flambant neuve où l'eau s'infiltre par le plafond. Un peu partout, des rallonges électriques sont scotchées sur les murs en raison du manque flagrant de prises électriques. Faute d'espace, des équipements traînent un peu partout dans les corridors et les salles surchargées. Il faut le voir pour comprendre. C'est difficile à expliquer à quel point c'est rudimentaire, souligne la docteure Lucie Opatri, présidente directrice générale du CUSUM, dont fait partie le Neuro, qui accueille des patients de partout au Québec. Même le Collège des médecins du Québec a soulevé des inquiétudes concernant des risques d'infection et la sécurité des patients, ajoute le CUSUM. Autre problème majeur, les ambulances accèdent à l'hôpital par le même quai que tous les autres camions de livraison et les éboueurs. Devant ce constat, la direction souhaite déménager le Neuro sur le site Glen, où se trouvent d'autres établissements du CUSUM. Un terrain est déjà dans la mire. Le coût total pour déménager est évalué à 1 milliard de dollars. À titre comparatif, le coût estimé pour reconstruire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est de 5 milliards. Malgré tout, l'hôpital de renommée mondiale réussit à attirer des étudiants et chercheurs de plus de 65 pays. Maintenant, la une du Devoir, une photo spectaculaire, la lave du piton de la Fournaise qui a plongé dans l'océan Indien dans la nuit de dimanche à lundi, ce qui a offert un spectacle que la Réunion n'avait pas connu depuis près de 20 ans. Dimanche après-midi, le front de lave était figé à 150 mètres de l'océan. Quelques heures plus tard, alimenté par un regain de débit, la lave incandescente plongeait dans la mer dans un immense panache de fumée rose orangée et de vapeur d'eau, tandis que quelques curieux observaient la scène depuis des éperons rocheux. La dernière fois que la lave avait atteint l'océan était en 2007. Elle avait là aussi auparavant traversé la RN2, la route nationale reliant l'est au sud de l'île. Un autre titre à la une du Devoir, c'est le Devoir qui enquête Zachary Goudreau. Le coûteux pari de l'intelligence artificielle. On parle ici de cégep et universités qui s'en servent pour faire de la recherche, détecter le plagiat et automatiser des tâches. Mais à quel prix? Des universités et des cégeps du Québec ont dépensé ces dernières années des sommes totalisant des millions de dollars dans des technologies rattachées à l'intelligence artificielle, notamment vouées à contribuer à la recherche, à automatiser certaines tâches ou encore à détecter le plagiat, a constaté le Devoir. Un pari coûteux qui comporte son lot de risques, préviennent experts et représentants syndicaux, notamment des pertes d'emplois sont évoquées, des plagiats aussi qui sont difficiles à détecter. Histoire, Dave Noël fait parler les navires disparus de la Nouvelle-France. Dans le livre « Histoire d'épave », l'historien et journaliste suit les traces de bateaux engloutis pour mettre en lumière le récit maritime de la colonie. Et finalement, à la une de la presse plus d'aujourd'hui, on parle d'une enquête sur les « brownies » entre guillemets au PLQ. L'UPAC doute de l'authenticité des textos. L'unité permanente anticorruption envisage que les textos sur les brownies qui ont contribué à pousser Pablo Rodriguez vers la sortie seraient faux, qu'ils auraient été fabriqués, auquel cas, par qui? Telle est la question, un grand dossier, signé Tommy Chouinard.
J'aimerais que tu revoies tout ce que tu laisses derrière toi. Une seconde à la fois, une seconde à la fois. J'aimerais que tu entendes tout ce que je ne te dis pas. Maintenant que tu es là, maintenant que tu es là. Tu vois la vie, les jours qui passent et ne reviendront pas. Et toi, comment tu vois la vie, les jours qui passent et ne reviendront pas. Maintenant rendu là. Et la fin qui s'approche, à la fin les reproches, les paroles, les désirs, tant de choses à se dire. Le cœur et la raison, nos cœurs ont-ils raison? Toi, comment tu vois la vie, les jours qui passent et ne reviendront pas? C'était quand même beau tout ça, c'était quand même beau, oh,
Étienne Fletcher et sa chanson « Rendu là ».
Des mots d'origine étrangère avec vous, André Lacombe, et vous commencez avec quelques mots d'origine française.
Deux mots apparentés, en fait, « nip » et « reniper ». « Nip », on l'utilise très peu au Québec, hein? C'est rare qu'on entend ça. C'est un mot issu de l'ancien français « guenip ».
Ah.
Ça, ça désignait l'ensemble des vêtements ou des effets d'une personne. Mais aujourd'hui, on l'utilise plutôt pour parler de vêtements usés, défraîchés. Vous savez, ceux qu'on garde dans le fond du garde-robe en se disant qu'on pourrait toujours les mettre pour faire de la peinture, mm-hmm. Et puis finalement, on ne s'en sert jamais. Là.
Nous, on dit guenille. On dit pas guenille, on dit guenille.
Guenille. C'est vrai, je parle trop bien, guenille. Alors, au Québec, ben, on est davantage familier avec reniper, qui nous vient du picard, langue régionale du nord de la France. Ça voulait dire, à l'origine, changer de vêtements, reniper. Mais au Québec, le sens a évolué, puis peut signifier trois choses, en fait. Réparer ou rafistoler quelque chose, plus souvent un objet. Restaurer ou rénover une maison, une voiture. Dans ce cas-ci, on dit souvent revamper aussi, hein, ce qui est un anglicisme de « to revamp
mm-hmm. ».
Et enfin, se reniper, ça, on l'entend plus rarement, dans le cas d'une personne qui fait sa toilette ou qui modifie au mieux son apparence physique. Magané.
On va se reniper quand on est magané.
On va se reniper quand on est magané, hein, c'est ça. Ah, il y a tout et dans tout.
Oui, on dirait.
Verbe dérivé de l'ancien français « maigné », qui voulait dire « mutilé » ou « blessé ». Relativement proche du sens actuel, mm-hmm. hein, qui veut dire soit « abîmé » ou « endommagé », »,« magané » quelque chose, un objet. Je pense qu'on emploie cependant davantage l'adjectif « magané », qui décrit quelque chose ou quelqu'un en mauvais état, comme un lendemain de veille, par mm-hmm. exemple, n'est-ce pas? T'es pas mal magané à matin. Autre mot, enfin, bien de chez nous, « bébelle ».
Oui, ouais, Père Noël.
Bébelle, puis dans ta cour. En français du 13e siècle, on disait « bobelle » ou « babelle » pour désigner un petit cadeau. Alors qu'aujourd'hui, « bébelle », ben, ça identifie soit un jouet, un objet sans valeur, un gadget.
Mm-hmm. Ça, je disais Père Noël, genre. Je
Père
pensais
Noël,
à la chanson.
Père Noël, la porte des bébelles.
J'en ai eu, j'en veux plus.
On
va arrêter là. Alors, André, vous poursuivez avec quelques mots d'origine diverse.
On débute avec le magasin, issu de l'arabe mahazin. Excusez ma prononciation arabe, pas très au point. Ça veut dire entrepôt, dépôt, lieu de stockage à l'origine, mais c'est un sens qui existe toujours pour magasin. Le mot, lui, est apparu en français au 14e siècle sous la forme magasin. Et c'était fidèle à l'esprit d'origine.
Viens-tu magasiner?
Magasiner. Je pense pas que les gens magasinaient beaucoup à l'époque. Parce que d'ailleurs, le sens de boutique, pour dire magasin, ça, c'est apparu seulement au 17e siècle. Hein? Et tant qu'à être au magasin, on va poursuivre avec le mascara. Hein? On s'achetait du mascara. Mot qui trouverait ses origines dans l'espagnol mascara ou l'italien maschera.
On n'est pas sûr.
C'est pas clair. C'est comme c'est souvent le cas en linguistique, là, parce qu'il y a tellement de recoupages. Les deux peuvent vouloir dire, en fait, masque ou tache. Hein? Et le terme apparu en français au 19e siècle pour désigner le fameux fard à cils voulait justement traduire ce côté un peu d'un masque avec un regard mystérieux ou sombre. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça du mascara.
C'est joli, fard à cils.
Fard à cils. Oui, c'est comme ça.
Je mets mon fard à cils, je me renipe et j'arrive.
Tout est dans tout, Hélène, je vous le dis. Le mot a d'abord été popularisé en anglais sous la forme mascaro.
Ah.
Et l'appellation française serait d'ailleurs un dérivé de l'anglais. Donc, on serait passé de l'espagnol, italien à l'anglais et ensuite au français.
Toute une histoire.
Toute une histoire. Autre hypothèse, cependant, qui circule, selon certaines sources, suggérant que le terme pourrait être associé à la ville de Mascara, en Algérie, où les Français auraient découvert l'usage de l'antimoine pour les cils. L'antimoine, c'est une poudre noire au 19e siècle. Et vous avez peut-être aussi déjà entendu le mot « rimmel » comme synonyme de mascara.
Ça fait très star.
Où t'as mis ton rimmel? S'il s'agit de ce qu'on appelle en linguistique un antonomase, lorsqu'une marque engendre un mot dans le langage populaire
comme... marque!
Un Kleenex, skidoo. Rimmel, ça nous vient d'Eugène Rimmel, qui a commercialisé, popularisé le premier mascara cosmétique au 19e siècle. En utilisant son nom.
Et comment on apprend des choses grâce à vous. Et c'est drôle hein, que mascara peut signifier aussi tache, parce que ça peut tacher. Hein?
Absolument.
Ouais.
Ouais.
Le mascara qui coule là, quand on pleure.
Absolument.
Même quand.
Ouais, mais achetez-vous-en du bon. Achetez-vous-en du bon, puis il coulera
pas. Oui, mais bon, pas bon, ça peut couler. À moins qu'il soit waterproof en bon français.
Ah, voilà.
Bon, une jupe maintenant.
Une jupe! Toujours dans le magasin, une jupe maintenant, mot qui trouve son origine encore là dans l'arabe, djouba, désignant soit une veste ou une robe. C'est drôle, hein, le même mot. Oui, une veste. Mais ce sont des vêtements d'hommes et non de femmes dans ce cas-ci. Au Moyen Âge, le mot arabe est d'abord passé à l'italien sous la forme djouba, puis au français, mais ça identifiait à l'époque ce qu'on appelait un pourpoint. C'était une sorte de veste masculine courte, ajustée, souvent matelassée, qu'on portait sous l'armure comme protection contre les blessures, un pourpoint. Et c'est juste beaucoup plus tard, au 17e siècle, que le sens actuel du mot « jupe » est apparu pour désigner le vêtement d'abord féminin, mais masculin par la suite avec le kilt et autres.
C'est loin d'être une veste, là. Si tu mets ta jupe comme une veste,
c'est
un problème.
C'est ça qui est étrange des fois. Ouais. Puis on comprend mal parfois l'évolution des mots, mais toujours est-il que c'est ce qui est arrivé. L'adjectif « kitsch » maintenant, apparu vers la fin du 19e siècle en Bavière, région du sud de l'Allemagne, pour désigner des objets d'art de mauvais goût, bon marché, produits en série. Vous voyez, on est vraiment dans le péjoratif. Ça aurait été utilisé par les marchands d'art pour critiquer les imitations médiocres et les bibelots destinés à la bourgeoisie. Ces riches parvenus, n'est-ce pas? Contrairement aux aristocrates qui, eux, étaient des gens... de famille riche. Alors, il y a tout le snobisme derrière
oui.
ça.
Ah oui.
Le mot serait dérivé d'ailleurs du verbe allemand « kitchen ». C'est ça, « kitchen », mais pas « kitchen » au sens de cuisine.
Non, non.
S-C-H-E-N, pour décrire l'action de ramasser des déchets dans la rue. Hein. Ça, on est toujours dans un sens péjoratif.
Méprisant, même.
Méprisant. Au 20e siècle, le sens du mot s'est élargi pour décrire soit une forme de culture de masse ou de design « tape à l'œil ». Là, on est proche de ce qu'on dit au Québec comme étant le « quétaine », qui est synonyme de « kitsch ». « Quétaine », je le rappelle, selon une hypothèse maintes fois répétée, ça ne viendrait d'une famille défavorisée ayant vécu à Saint-Hyacinthe, les « Keating ».
Ça ressemble à une légende.
Dans les années 40. Ça. Oui, mais elle est tellement véhiculée.
Les « Keating ».
Il y a deux hypothèses, je vous dis la deuxième. Autre hypothèse, donc, sur l'origine du mot, voulant que ce soit dérivé de « quêteux » ou « quêteur », qui, en vieux français, se disait « soit « quétain » ou « catin », mais « q-u-a-t-a-i-n ». Et là, vous voyez que phonétiquement, on est très proche de « quétaine ».
C'est
alors,
un bon mot,
c'est
hein?
les deux hypothèses qui existent.
Et qui est « quétaine ».
Et voilà.
On n'aime pas ça, se faire traiter de « quétaine ».
Non, qu'on n'aime pas ça.
Le « wagon », dis-tu « wagon » ou « wagon »?
« Wagon », mais c'est emprunté à l'anglais « wagon », donc au début du 19e siècle, et ça nous vient du néerlandais « wagon », avec un « e » au lieu d'un « o ». Ça désignait à l'origine un chariot à quatre roues pour charge lourde. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cet usage-là a été incorporé dans le français parlé au Québec et ailleurs au Canada. Alors, selon le dictionnaire des canadianismes, aux éditions Septentrion, pour ne pas le nommer, « wagon », O-U-A-G-U-I-N-E.
On avait des wagons chez nous.
Prononcé
là.
Phonétiquement. Ça réfère justement à une voiture à quatre roues tirée par des chevaux puis qui servait au transport des personnes et des marchandises. Moi, j'avais déjà entendu mes grands-parents dire « mets ça dans wagon » et ben je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Et bon. C'est de là que ça vient.
Wagon, moi, je l'ai entendu toute ma vie parce que je suis née sur une ferme, comme vous le saviez peut-être.
Oui,
et la wagon, on l'accrochait après le tracteur.
Exactement.
Des fois, la wagon, il y avait un pneu qui était... qui était dégonflé.
Qui était flat.
Il était flat, oui.
Si on revient au sens ferroviaire du mot wagon, c'est apparu ça en 1826 avec la naissance des chemins de fer.
On passe à la bouffe.
La bouffe, avec le pastrami.
Ah, ça, je suis contente parce que je suis toujours mêlée. Le pastrami, le smoked meat, est-ce que c'est la même chose?
Je vous dis tout ça, tous les secrets. Okay. Charcuterie d'origine new-yorkaise, le pastrami à base de bœuf saumuré et fumé, servi chaud, bien sûr. À la différence du smoked meat montréalais, qui, lui, est d'abord affiné à sec, c'est-à-dire salé et séché à l'air libre, parfois un peu mariné par la suite et confectionné uniquement avec la poitrine de bœuf. On dit aussi le brisket, terme anglais, ce qui n'est pas le cas du pastrami. Et pourquoi pastrami? Mais ça tire son origine du roumain pastrama pour désigner une viande conservée. Et pour continuer sur la petite histoire du pastrama ou pastrami, c'est une tradition, ça, de viande séchée fumée qui a été apportée aux États-Unis et au Canada par des immigrants juifs roumains, justement. Donc, le roumain a traversé grâce aux Juifs à la fin du 19e siècle, d'où le pastrami new-yorkais et le smoked meat montréalais. C'est eux qui nous ont apporté ça. Et l'un des pionniers de notre réputé smoked meat, c'est le célèbre Reuben Schwartz.
Ah, il s'appelle Reuben Schwartz?
Oui,
qui a ouvert son restaurant. Le Reuben qui existe et le Schwartz.
Qui a ouvert son restaurant Schwartz sur Saint-Laurent en 1928. Toujours en activité, d'ailleurs,
je le rappelle. Toujours plein. Toujours plein.
Ouais. Et tant qu'à parler de bouffe, on termine avec le tofu.
Après avoir mangé un smoked meat, demain, je vais manger du tofu.
Oui, ça va être plus santé, on va me racheter. Mot issu du japonais tofu, lui-même emprunté au chinois doufu. Parce que le tofu, Hélène, ça a vu le jour en Chine il y a plus de 2000 ans.
C'est pas d'hier.
Étant en caractère chinois que japonais, ça se compose, ce mot-là, de deux caractères. D'une part, le premier pour fève de soja et l'autre caractère pour mou, caillé ou fermenté. C'est le même caractère, figurez-vous, pour les trois. Donc, littéralement, le tofu, c'est un caillé de fève de soja. Et c'est d'ailleurs pourquoi on réfère encore parfois au tofu comme étant du fromage de soja. Et le mot est apparu dans une langue européenne, dans un dictionnaire portugais-japonais, en 1603.
Le tofu.
Le tofu.
Quand on sait l'apprêter, ça peut être vraiment très bon.
Tout à fait.
André, c'est ici qu'on se dit au revoir.
Au revoir.
Mais pas adieu, même si on va s'ennuyer de vous. Là. Vous allez être de retour à la fin avril.
Je pars en voyage et j'aurai des choses à vous raconter.
Bien, certainement.
Retour.
Alors, passez du bon temps.
Merci.
Où que vous soyez. Puis, on va se retrouver en espérant que le printemps soit vraiment bien installé.
On va l'espérer.
En principe, il arrive le vendredi à 10h45.
Voilà.
Pas en principe.
On va espérer qu'il est au rendez-vous.
Oui. Le vrai, vrai printemps,
vrai.
Avec du beau soleil.
À
bientôt.
Au revoir.
Au quotidien, avec Hélène Denis.
Merci de le faire, d'ailleurs. Michel Poitvin est au bout du fil, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Aujourd'hui, vous nous parlez, entre autres, de Wealth Simple, mais d'abord, Statistique Canada publiait les nouveaux chiffres d'inflation hier.
Oui, hier, c'est des bonnes nouvelles en général. L'inflation est en baisse. On est pour février, sur une base annuelle, donc de février 25 à février 2026, 1,8 %. Donc, l'indice des prix a augmenté de 1,8 %. En janvier, on est à 2,3 %. Donc, une belle baisse. Au Québec, on est également en baisse par rapport à janvier. En janvier, on était à 3 %, là, on est à 2,8 %, mais c'est quand même au Québec la plus forte inflation de toutes les provinces. Mais on est en baisse, on est un petit peu à la traîne. Le panier d'épicerie a augmenté plus que l'inflation générale, 4,1 %, mais on est à 4,8 % en janvier, donc un peu de bonnes nouvelles de ce côté-là. Puis, c'est plus derrière ces chiffres là, d'inflation. C'est important de regarder ça en ce moment. Pourquoi? Parce que la Banque du Canada va annoncer son nouveau taux directeur demain. Et puis, la Banque du Canada se trouve un peu devant un dilemme. Là. D'une part, en regardant les chiffres d'inflation, on dit « Ah, bien, l'inflation est maîtrisée, on est en bas, on est même en deçà du seuil ou de la cible de 2 % que se fixe la Banque du Canada. » Donc, on dit « Bien, peut-être ça va faire baisser les taux. » Oui, mais il y a d'autres facteurs. On le sait tous, là, il y a une guerre qui est en Iran. Le prix du pétrole s'est enflammé. Pas le pétrole, mais le prix. Et puis, ça risque de créer des pressions inflationnistes. Et donc, si l'inflation repart, bien, ça inciterait la banque à hausser son taux. Là. Alors, là, on voit qu'il y a différentes forces dans l'économie. Et puis déjà, là, on se rend compte que les gens sur les marchés s'attendent à ce qu'il y ait plus d'inflation là, suite à la guerre en Iran. Puis comment on peut voir ça? Bien, une façon, c'est de regarder puis peut-être rapidement là, le rendement des obligations du Canada là, à moyen et long terme, donc un an, trois ans, cinq ans, dix ans. Puis ce qu'on remarque depuis la fin février, c'est que le taux de rendement a augmenté. Alors, pourquoi ça? Ça veut dire que les gens s'attendent à ce qu'il y ait de l'inflation. Bien, les gens s'attendent à exigent un rendement plus élevé pour acheter des obligations. Alors, c'est quoi une obligation? Mais c'est nous qui prêtons de l'argent au gouvernement, puis le gouvernement dit à chaque année, je vais te donner un certain taux d'intérêt. Par exemple, si le taux d'intérêt sur l'obligation est à 10 %, puis c'est une obligation de 1 000 mais le taux d'intérêt annuel, le gouvernement nous donne 100 $ à chaque année jusqu'à l'échéance de l'obligation, qui est peut-être dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça va? Donc, alors, le paiement, lui, de 100 $ il est fixe. Et puis ça, c'est fixe en dollars de, par exemple, 100 $ d'intérêt payé en 2027, bien, ça va être en dollars de 2027. Si on s'attend à ce qu'il y ait de l'inflation, bien, ce 100 $-là en 2027 va valoir moins que s'il n'y avait pas d'inflation, parce qu'on va pouvoir moins acheter. L'inflation, ça veut dire que les prix augmentent, puis avec notre 100 $, on va pouvoir moins acheter. Ça veut dire que si on s'attend à ce qu'il y ait de l'inflation, la valeur de l'obligation diminue parce que les paiements d'intérêt vont valoir moins dans le futur. Alors, comment on pallie à cette diminution de valeur? Mais on va dire, on va baisser le prix de l'obligation. Je ne suis pas prêt à payer le plein prix pour l'obligation parce que là, c'est rendu une obligation qui a moins de valeur parce que je m'attends à ce qu'il y ait de l'inflation dans le futur. Alors, quand le prix baisse, bien, ça fait augmenter, entre guillemets, le rendement perçu sur l'obligation parce qu'au lieu, par exemple, de la payer 1 000 si on la paye 900, mais que ça nous donne quand même un coupon de 100 $ à chaque année, bien, notre rendement avant inflation nominale a augmenté. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Là.
Bien, en tout cas, vous êtes un bon professeur. Là. J'étais capable de vous suivre. C'est déjà
bon,
beau.
Ben,
j'imagine donc, que si moi, je suis capable de vous suivre, les auditeurs aussi.
C'est bon. Alors, donc, ça, c'est une façon de voir s'il y a des anticipations d'inflation. Par exemple, c'est de regarder le rendement sur les obligations du gouvernement, par exemple. Puis, quand le rendement exigé augmente, c'est que les agents s'attendent à ce qu'il y ait de l'inflation plus tard. Donc, on voit que l'inflation est dans le discours financier, si vous voulez, des gens. Donc, ça, c'est un facteur qui ferait que la banque, bien, peut-être qu'elle va augmenter les taux d'intérêt. Mais il y a d'autres facteurs, on le sait. On a eu les tarifs de Trump depuis un an, on en a beaucoup parlé. Et puis, bientôt, il faut renouveler notre accord de libre-échange avec les États-Unis. Il y a beaucoup d'incertitudes, savoir est-ce qu'on va avoir une aussi bonne entente ou moins bonne. Et il y a des possibilités que l'économie soit affaiblie. Et dans ce moment-là, la banque voudrait baisser le taux d'intérêt. Alors, et puis, on le voit, là, l'autre facteur, le chômage a été en hausse. On l'a annoncé, je pense, c'est jeudi ou vendredi dernier. Le chômage au Canada est en hausse de 6,5 à 6,7 % en février. Donc, il y a différents vecteurs dans l'économie. Là, d'un côté, on pourrait avoir de l'inflation à cause de la guerre puis du prix du pétrole. De l'autre côté, l'économie faiblit un peu. Donc, est-ce qu'on augmente, on baisse les taux? Donc, on s'attend à ce que demain, les taux restent inchangés à 2,25 % là, donc, que la banque maintienne son taux directeur. Aux États-Unis, il y a le même dilemme, là, j'en parlerai pas plus en détail, mais il y a un peu les mêmes forces qui agissent aux États-Unis. Donc, puis la Banque fédérale américaine doit faire une annonce de taux plus tard cette semaine. Je pense que c'est jeudi ou vendredi. Donc, à suivre de ce côté-là.
Oui, on se dit ça souvent, suivre, mais dans ce cas-ci,
ouais,
c'est particulièrement vrai. Et là, on passe à... Pardon?
Non, j'ai pour dire une histoire sans fin. Donc, il y a toujours
ouais.
une suite.
Oui. Et là, on parle de l'application, la plateforme, l'entreprise financière Wealth Simple. C'est mon filleul qui m'en parle beaucoup de ces temps-ci. Et oui. Moi, je suis curieuse. Lui, il est complètement emballé. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, Michel, de cette institution financière?
Bon, à votre instar, moi, c'est mon fils qui m'en avait parlé
ah, oui?
en 2024. Donc, je pense que souvent, ça passe par les jeunes, oui. Là,
Les flots nous gardent à flot.
Exactement. Et puis, moi, j'ai fait le saut. En 2024, j'ai transféré à peu près tout là, de ma banque à Wealthsimple. Alors, Wealthsimple, c'est qui? C'est une entreprise financière qui est beaucoup basée sur la technologie pour offrir des services financiers qui sont en général pas chers, accessibles, rapides et pas mal efficaces. La principale interface, c'est son application mobile qui est vraiment bien conçue. Là, c'est facile de naviguer, faire des transferts entre les comptes et tout. Là, ça va investir, ça va vraiment bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déposer. Dans Wealthsimple, on a des comptes chèques. On peut avoir des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes de placement, des comptes enregistrés comme les REER ou les CELI. C'est très facile de bouger des fonds entre ces différents comptes-là. Très bon service à la clientèle. Là, j'étais avec eux au téléphone tout à l'heure, là, puis ils m'ont répondu immédiatement. Ça a été bien. Les frais de transaction pour ceux qui transigent en bourse, les frais, aucun frais de courtage, là, quoique beaucoup d'institutions financières maintenant qui offrent la même chose. Une particularité que je trouve intéressante, on verse un intérêt sur le compte chèque. Puis souvent, les banques, là, l'intérêt sur ton compte chèque, là, dans le meilleur des cas, c'est 1 %. Eux, bon, ça dépend un peu c'est quoi toute la valeur de tes fonds chez Wealthsimple, mais ça peut aller jusqu'à 2,25 % d'intérêt sur ton compte chèque. Ça, c'est intéressant. On peut payer des factures, on peut faire le rapport d'impôt maintenant à l'intérieur de l'application Wealthsimple, là, puis l'option de base est gratuite. C'est très facile d'avoir un compte, ceux qui veulent investir aux États-Unis, d'avoir un compte en dollars américains. Ils ont une carte de crédit qui est très avantageuse. Ils offrent des hypothèques, mais pas encore au Québec. Là, il doit y avoir des questions réglementaires. Là, les hypothèques ne sont pas encore disponibles au Québec. Écoutez, je vous donne un exemple. Là, moi, je dois faire une traite bancaire pour une transaction immobilière. Avec Wealthsimple, une fois que l'argent est dans mon compte chèque, je peux demander sur mon téléphone, donner l'adresse de la notaire, etc., pour la traite bancaire, le montant, puis eux vont la livrer pour 10 $ de frais en personne sur place en dedans de 24 heures. Je trouvais que c'était vraiment bien, au lieu d'aller à la banque chercher sa traite, puis d'aller apporter à la personne concernée pour des frais minimes de 10 $, ils s'occupent de tout.
Oui, on dirait que c'est presque trop vrai pour... trop beau pour être vrai, mais est-ce que c'est sécuritaire?
Oui, c'est sécuritaire. Wealthsimple, puis là, je ne veux pas rentrer dans des grosses considérations techniques, mais les institutions financières, il y a les banques, ce qu'on appelle des banques à charte. Ça, ça relève de la loi des banques du Canada. OK? Puis ces banques à charte-là, à chaque fois que tu déposes de l'argent, tu as une assurance dépôt offerte par ces banques et le gouvernement canadien. Et si la banque, entre guillemets, faisait faillite, l'assurance pour ton dépôt est assuré jusqu'à un montant, je pense, de 100 000 $ par compte, là, ce qui est énorme. Wealthsimple n'est pas une banque à charte, donc elle ne bénéficie pas de cette assurance-là. Mais où Wealthsimple a été intelligent, puis moi, je les trouve très innovateurs, ça, c'en est un exemple, là, dans un paquet de domaines, ils sont innovateurs, c'est que eux, par exemple, moi, supposons que je déposais 5 000 $ dans mon compte chèque à Wealthsimple. Ce 5 000 $-là, Wealthsimple va le déposer en fiducie dans une banque à charte. Donc, Wealthsimple ne bénéficie pas de l'assurance dépôt, mais eux-mêmes prennent notre argent et le mettent dans une banque à charte canadienne qui, elle, est assurée. Donc, indirectement, notre dépôt est assuré.
OK.
Donc, c'est très sécuritaire. C'est qui, Wealthsimple? Power Corporation... est propriétaire à plus de 50 %. Donc, c'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse Wealthsimple, comme par exemple l'est la Banque Royale ou d'autres banques. Elle appartient à Power Corporation.
C'est canadien.
Et Power y a injecté, je pense, c'est à l'automne, un 100 millions supplémentaires. Là. Donc, Wealthsimple est valorisé à plusieurs milliards. Là, on n'a pas le chiffre exact parce qu'il n'y a pas d'action de Wealthsimple, là, mais il gagne de plus en plus de clients et tout. Puis je dirais, si jamais vous considériez transférer, surveiller, ils ont souvent des promotions pour des transferts de compte, là, puis tu peux avoir des ristournes en fonction du montant transféré. Moi, j'ai un fils, mon fils plus jeune, mon plus vieux m'a initié, puis moi, j'ai initié mon fils plus jeune, puis lui, il a attendu, puis à un moment donné, il a transféré de l'argent, puis il a eu un ordinateur, un Mac, MacBook Air, je crois, là. Donc, quand il a transféré
cadeau,
son argent.
Cadeau, cadeau. Mais les banques, ça doit quand même créer une certaine tension, puis aussi une volonté des institutions financières qu'on connaît bien, là, les plus traditionnelles, de s'aligner à ce qu'offre ce genre de plateforme-là, là. Pour ne pas perdre toute sa clientèle.
Ils n'auront pas le choix parce que Wealthsimple, là, comme on le disait, ils sont très populaires auprès des jeunes. Ils sont très dynamiques. Ils offrent un paquet de services. Là. Écoutez, moi, c'est vraiment la facilité avec l'application de s'en servir. Puis c'est pas juste pour les initiés de la finance. Là. Au contraire, ils ont à chaque jour ou presque, ils ont une petite lettre qui s'envoie. Ils parlent de l'économie, mais dans des termes des fois humoristiques, très simples. Là, c'est facile. Ils ont des. C'est très facile d'utiliser leurs choses, de faire des essais, d'apprendre. Ils offrent des fonctions avancées, mais en même temps, juste pour la base, c'est super facile. Là, quelqu'un qui ne veut pas comme faire trop d'affaires transiger, je ne sais pas moi, des options ou des actifs compliqués.
Bon, alors on ira voir. Wealthsimple, vous êtes assez convaincant et convaincu.
Ils ont des portefeuilles autogérés aussi, là, dont les frais ne sont pas trop élevés. Là, quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, ils vont dire bon, ben, on a un portefeuille d'obligations ou d'actions peu risquées, moyennement risquées, plus risquées, etc. Donc,
ben, merci,
donc ça
Michel.
Vaut la peine de regarder. Puis moi, j'espère juste que ça va susciter la concurrence dans l'industrie bancaire, puis que certaines institutions font. Moi, j'étais avec une banque et puis il y avait des frais de courtage à chaque fois que je voulais transiger. Je leur ai posé la question, allez-vous les enlever, puis tout ça, puis je n'avais pas de réponse. À un moment donné, j'ai dit, bon, je suis parti.
Bon, c'est sûr qu'ils réfléchissent là-dessus, pas juste à cause de votre commentaire, là, mais
non.
Pour la réalité des choses. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'aurais le nez de Walt et toi aussi, ma jolie. Tous les deux, mon amour.
J'avais un char de Stephen Faulkner.
Oui, alias Cassonade, sortie demain d'un guide, je pense que c'est plus qu'un guide, elle va nous en dire davantage, Marie-Claude Duguay-Arsenault qui est avec nous en studio. Bonjour Marie-Claude.
Merci de me recevoir.
Mais ça nous fait vraiment plaisir. Vous avez écrit donc avec Manon Lapierre ce beau livre qui sort demain aux éditions de l'Homme, 300 raisons d'aimer la Gaspésie. 300, c'est pas rien. Alors, ça vous vient d'où? Cet amour de la Gaspésie, vous êtes née là, à Grande-Rivière, si je ne m'abuse.
Effectivement, donc je suis une fière Gaspésienne de naissance. Et puis,
est-ce que vous y habitez toujours?
En fait, j'ai le privilège d'y passer plusieurs semaines par année parce que je suis copropriétaire de chalets locatifs à Percé. Donc, directement avec la vue sur le rocher, donc je reçois chaque été... plusieurs touristes qui viennent nous voir et puis dont ça fait plusieurs années que je partage mes coups de cœur de la Gaspésie. Donc, c'était prédestiné.
Oui, les chalets du domaine du capitaine.
Exactement.
Je suis allée faire un petit tour sur le site Internet pour en savoir davantage parce qu'il faut dire que ce livre-là nous donne vraiment envie d'aller, de retourner, de découvrir la Gaspésie si ce n'est déjà fait. Mais comment l'idée de ce livre consacré à... vos 300 coups de cœur, finalement, en Gaspésie est né avec votre... C'est une amie de longue date, Manon?
Oui, en fait, l'histoire est intéressante parce que 300 raisons d'aimer, c'est une collection qui a parti il y a quelques années mm-hmm. avec la journaliste Marie-Joëlle Parent. Donc, moi, j'avais sur ma table à café le livre et lors d'un petit matin, je me suis dit, il faut écrire 300 raisons d'aimer la Gaspésie. Alors, et 300 raisons d'aimer la Gaspésie, c'est ce qu'on appelle le road trip idéal au Québec. Et on va se le dire que de voyager au Québec, ça n'a jamais été aussi bien ressenti. Donc, Manon Lapierre, alias La Petite Bête, en fait, qui est une YouTubeuse culinaire, c'est ma grande amie depuis plus de 30 ans.
Ah oui!
On est allé à l'université ensemble. Et puis, on s'était toujours dit qu'on allait faire un road trip ensemble. Et comme nous sommes les deux... amoureuse de la Gaspésie, on s'est dit, c'est le parfait moment. Quoi de mieux que d'écrire un guide où on vient répertorier nos coups de cœur de la Gaspésie, autant d'un point de vue culinaire, hébergement, les excursions à faire, où aller marcher, des...
Concentré plus sur l'été, hein?
On est concentré plus sur l'été simplement parce que la plupart, en fait, le gros pourcentage de la population qui visite la Gaspésie, c'est l'été parce que les commerces sont principalement ouverts là, de septembre à octobre, de mai à octobre. Donc, c'est la saison idéale pour aller visiter la Gaspésie. Donc,
vous n'avez pas peur d'attirer trop de monde, d'être victime de sourd-tourisme, comme c'est déjà arrivé là, pendant la pandémie?
La beauté de la Gaspésie, c'est que c'est un grand territoire. On parle vraiment d'une péninsule de 885 kilomètres. Ce qui est beau en Gaspésie, c'est que même pendant les périodes très achalandées, par exemple, je prends exemple juillet, c'est certain qu'en plein centre-ville de Percé, il va y avoir beaucoup de monde. Mais les territoires sont tellement vastes que quand on veut profiter des espaces verts, d'aller à la plage, d'aller faire des randonnées, on ne ressent pas du tout cet effet-là de surcharge de population. Et c'est ça qui fait en sorte que de voyager en Gaspésie, c'est plaisant.
La question cliché, là, quand on vous demande combien ça prend de temps à faire le tour de la Gaspésie, qu'est-ce que vous dites?
Je vais répondre avec la plus belle expression gaspésienne. En Gaspésie, on prend le temps de prendre notre temps. Alors, plus vous allez prendre de temps, plus vous allez avoir un beau séjour. Bien sûr, je ne recommanderais pas à personne de faire le tour de la Gaspésie en moins de 5 jours ou une semaine.
C'est pas une course, là.
C'est pas une course. Puis ce qui est intéressant dans le livre « 300 raisons d'aimer la Gaspésie », c'est qu'il est écrit par région. Donc, si on va visiter, par exemple, une région, alors dans le livre, c'est très bien expliqué chaque adresse et chaque coup de cœur de cette région-là.
Il y a du travail derrière ça, là. Ça vous a pris combien de temps, encore ma question, combien de temps pour faire ce road trip-là et
oui.
rédiger ce livre-là? Parce qu'il y a toute une recherche, là. Et
oui.
Il y a des photos aussi qui sont renversantes, très, très belles.
Merci, ouais. C'est gentil. En fait, on a passé notre été au complet.
L'été passé?
L'été passé.
Okay.
Je dirais qu'en termes d'itinéraire, on y a mis environ 3 semaines vraiment à fouiller et à découvrir.
3 semaines pour 300 raisons.
Trois semaines pour 300 raisons. Et tout le long de la route, on a rencontré des Gaspésiens qui, eux, nous ont donné leur coup de cœur.
Oui.
Donc, c'est venu... donner de l'essence à la liste qu'on avait déjà déterminée.
Est-ce que ces rencontres-là étaient hasardeuses ou vous les aviez planifiées?
Extraordinairement hasardeuses.
Wow! Et comme la magie.
La magie. Les Gaspésiens nous accueillent sans prendre rendez-vous, prennent le temps de nous recevoir, de nous expliquer leur commerce.
La parlure aussi.
La parlure. On a une entrevue. En fait, ce qui est intéressant dans le livre « 300 raisons d'aimer la Gaspésie », c'est qu'on a une vingtaine d'entrevues de Gaspésiens. Des pêcheurs, des artistes, des historiens. Il y a beaucoup d'histoires de la Gaspésie dans ce livre-là. Et en parlant des parlures, Fernand Alain, dans le secteur de Paspébiac, nous parle de l'importance des accents d'un village à un autre.
Ça, c'est vraiment intéressant.
Et c'est vraiment intéressant de comprendre, en fait, ce qu'il dit, ce n'est pas mal parler que d'avoir des accents, mais bien au contraire, ça vient d'une richesse de la provenance des gens du village.
Il dit on peut sentir l'émotion, par exemple, dans la façon de dire « papa » ou « maman ».
Oui, on dit « papa » et « maman ». Et en fait, en Gaspésie, on a beaucoup de « chair ».
Oui.
Hey, cher.
Un peu comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui. Hein? Donc, c'est tous des beaux petits mots d'amour.
Oui. On roulait air à Bonaventure, entre autres. Mais ça fait partie là, de votre rencontre avec Fernand Alain.
Exactement.
Qu'on voit dans votre livre. Il y a Daniel Boucher aussi. Je pensais qu'il était originaire de la Gaspésie, mais non. Il a des origines gaspésiennes.
Son père a toujours habité à Mont-Louis.
Oui.
Donc, exactement.
Mais lui, il ne pensait pas s'établir là temps plein.
Il ne pensait pas s'établir.
Et rencontrer sa douce.
C'est une belle histoire, effectivement, de Daniel Boucher qui nous raconte à quel point il a appris à construire de ses mains la maison qu'il habite présentement dans le secteur.
Avec d'autres Gaspésiens.
Avec ses
cousins. Il y a beaucoup d'entraide. Ouais,
il y a beaucoup d'entraide. Et c'est ce qui est beau. Et en fait, on invite les gens, c'est un excellent timing parce que le livre va être en librairie demain, le 18 mars. Donc, tous ceux qui souhaitent planifier leurs vacances en Gaspésie cet été, c'est un excellent timing. Il faut réserver les hébergements d'avance. Et même si vous n'allez pas en Gaspésie, ne serait-ce que de feuilleter ce livre-là,
voyage.
Ça nous donne le goût parce qu'il y a beaucoup d'inspiration.
Ça nous donne le goût de plein de choses, notamment de manger des guédilles de homard.
Si on est gourmand, là, ça donne l'appétit.
Vous nous donnez vos coups de cœur, vos adresses coups de cœur?
Certainement. Donc, on a goûté à peu près toutes les guédilles au homard.
Où faut-il aller pour en manger
On a eu un coup de cœur à la cantine de la Seigneurie, du côté nord. On a eu beaucoup de
C'était généreux aussi en homard.
C'était généreux. Donc, on a goûté beaucoup d'adresses culinaires. Manon Lapierre, la petite bête, en fait, son expertise est au niveau de la cuisine. Hein. Sur sa chaîne YouTube, elle nous fait saliver. Donc, elle a été vraiment...
Vous en avez bien profité.
Oui, parce que la Gaspésie a beaucoup à offrir en termes de fruits de mer, en termes de poissons. Donc, on est dans la fraîcheur. Donc, on est...
Et vous, Marie-Claude, vous êtes originaire de Grande-Rivière.
Oui.
Est-ce que ce projet-là d'écriture du livre « 300 raisons d'aimer la Gaspésie » vous a fait redécouvrir votre propre région?
Vraiment, oui.
Oui?
J'ai découvert des endroits. Quand on dit dans le livre que des fois, il faut sortir de la 132 et prendre des chemins vers des rangs, le secteur qui m'a donné le plus de frissons, ça a été les plateaux à Matapédia.
Oui,
alors là,
pourquoi?
Parce qu'on se sent complètement, c'est comme si on est en Irlande où il y a des couleurs, des champs à perte de vue, de blé, des couleurs.
Et là, il y a le fleuve, mais il y a aussi la forêt, les montagnes.
En fait, en contrebas, on voit la rivière. Et on voit les montagnes derrière.
Le fleuve, vous dites la mer.
On dit la mer. Du côté nord de la Gaspésie, c'est le fleuve Saint-Laurent.
Ouais.
Il y a la baie des Chaleurs, on dit la mer. L'important, c'est qu'on soit inspiré.
Ouais.
Mais des coups de cœur dans le livre, on en a trouvé. même si on est gaspésien.
Que vous avez aussi découvert.
Oui, tout le long de notre périple, parce que on prenait le temps de prendre le temps, de prendre des petits chemins qu'on ne connaît pas et de se laisser surprendre par des lieux. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant de prendre le temps de voyager aussi.
Prendre le temps, oui. C'est de cette manière-là qu'on apprécie le plus qu'est-ce qu'on est en train de vivre.
Exactement.
Et pour quelqu'un qui visiterait la Gaspésie pour la première fois, là, ça serait quoi votre conseil de base?
Mon conseil de base, premièrement, réserver ses hébergements d'avance, si on veut s'assurer d'avoir vraiment de le faire sans stress.
Ouais.
Deuxièmement, d'avoir le guide avec vous pour vous... Parce qu'en fait, on vous tient par la main à travers 885 kilomètres. Et d'aller chercher vos coups de cœur à vous également.
Mm-hmm.
De parler aux Gaspésiens. Les Gaspésiens, quand vous allez dans des cafés, quand vous allez dans des commerces, c'est le meilleur endroit pour vous laisser guider. Les Gaspésiens vont être généreux avec vous. Alors, voilà.
Et comme dit Claudine Roy, qui est entre autres fondatrice des Traversées de la Gaspésie, qui signe la préface, « La Gaspésie ne se visite pas, elle se vit ».
Oui.
Bravo pour ce livre qui est vraiment très, très bien fait. Marie-Claude Dugarcenot avec nous en studio et Manon Lapierre avec qui elle a écrit ce beau livre, « 300 raisons d'aimer la Gaspésie » aux éditions de l'Homme. Merci.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Merci Lefebvre et on s'en va à Maria. On reste en Gaspésie. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Je dis ça Anne-Marie parce que je viens d'avoir une entrevue avec Marie-Claude Dugarcenot qui a écrit en compagnie de Manon Lapierre 300 raisons d'aimer la Gaspésie. Et je pense que vous êtes convaincue que ça vaut la peine de découvrir la Gaspésie, que vous l'aimez la Gaspésie. Mais ce livre-là est tellement beau et bien fait. Alors, peut-être qu'un jour vous allez pouvoir en parler, qui sait.
Je vais mettre la main là-dessus.
OK. Alors aujourd'hui, le livre qui vous intéresse, c'est Épinette par Isabelle Lapointe.
Oui, en fait, il est apparu dans la liste préliminaire du prix des libraires de cette année, puis pas dans la liste finale, mais je trouvais que ça valait la peine d'en parler parce que c'est un premier roman paru chez La Mèche de 270 pages quand même par Isabelle Lapointe qui signe là un roman qui, je pense, était inspiré par un texte, un récit qu'elle a présenté à Radio-Canada qui s'appelait Dédé. Et Dédé, c'est un personnage que l'on retrouve dans Épinette. Elle a aussi écrit une pièce de théâtre qui s'appelait 19 rue Gagnon, et c'est sur la rue Gagnon que se déroule ce roman aussi. Donc, je pense que c'était un processus de quelques années, inspiré de son vécu, parce qu'elle est née à Baie-Comeau, donc sur la Côte-Nord, et tout le roman se déroule sur la Côte-Nord, dans un village imaginaire, mais dans lequel on pourrait reconnaître Baie-Comeau et d'autres petits villages. Alors, ça se passe à Sceaux aux oiseaux, et elle présente là des personnages très colorés à la langue très crue et orale, dans un langage très populaire. C'est ce qui est la force de ce livre-là, c'est que de les entendre parler comme ça, ça nous les rend très attachants, et puis on est tout à coup entouré de toute une population locale qui s'aime bien, mais qui des fois est pleine de violence et subit toutes sortes de choses. Alors, c'est 22 petits chapitres qui sont divisés en trois grandes parties. La première partie, ça s'appelle la croissance de l'épinette noire, donc arbre typique de la Côte-Nord, qui raconte l'enfance de la narratrice qui quitte justement Baie-des-Cormiers, qui est un peu Baie-Comeau, pour aller vivre dans le village aux oiseaux où son père est né. Et ça, au grand désespoir de sa mère, Diane, qui, elle, voit la belle-mère Rita, qui va se mêler un petit peu de leur vie. Alors là, c'est une adaptation à une nouvelle place, des nouveaux amis, une nouvelle école, plein de choses qui vont créer chez elle un peu d'anxiété. Le deuxième chapitre, ça s'appelle « La menace des grands feux ». Donc, effectivement, il y a des incendies, des feux de forêt là-bas qui ravagent la Côte-Nord. Et c'est la période de l'adolescence, des chums, des premières expériences qui sont pas toujours heureuses, évidemment. Et la dernière partie s'appelle la tordeuse d'épinette. C'est ce qui menace, effectivement, la forêt là-bas, comme partout. Et puis, c'est la fin de l'adolescence, le début de l'âge presque adulte. Et cette vie-là va se passer ailleurs parce que la famille qui déménage au début dans ce petit village, va retourner Abbé des Cormiers. Puis là, elle raconte qu'elle, en tant que sauteronne, comme elle s'appelle, va vivre à Québec, à Montréal et ailleurs, cherchant toujours qu'est-ce qu'elle est, mais ne perdant jamais de vue qu'elle est de ce petit village et que c'est là qu'elle a grandi, puis que sa vie est là. Alors, dans chaque chapitre, l'autrice raconte un épisode de sa vie, c'est assez chronologique. Puis, tout à coup, dans la deuxième partie, il y a un titre et c'est le portrait d'un personnage. Exemple Dédé, exemple Rita, un autre comme ça. Et ça nous apprend à découvrir les gens qui l'entourent, son professeur, sa voisine, donc les gens, la vie qu'il mène là-bas. Et tout ça est écrit dans un langage oral, d'un niveau populaire, assez cru, qui est toute racontée par les yeux d'Isabelle, qui était une enfant qui a grandi là. On a l'impression qu'elle avait un très bon sens de l'observation, beaucoup d'écoute, qu'elle parlait pas beaucoup, mais qu'elle s'est amusée plus tard, adulte, à rapporter les dialogues et ce langage populaire qu'elle a entendu. Les femmes là-bas travaillent dans des bars, les hommes prennent beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de violence. Je vous donne un extrait, un exemple. Les astis sont toutes après moi. Ils disent que je le parle mal, puis que je bourrasse. C'est eux autres qui n'ont pas d'allure. Ils sont lâches, les astis. Ils sont lâches, puis ils sont pas fiables. C'est comme ta mère. Check la bain, elle, avec. Elle va se pogner des gars sur son chiffre. Je le sais, moi. Une femme qui travaille au bar, c'est pas fiable, ça, Chris. Bon, ça continue comme ça.
Une langue très vivante, très parlée, là.
Oui, exact. Mais c'est pas toujours comme ça. Ça, c'est juste dans les dialogues.
Ouais.
Oui, parce que le reste, c'est l'autrice qui raconte avec le recul ce que c'était que la vie là-bas, avec les paysages, la nature, la forêt, les groupes d'amis, la vie scolaire en région aussi. Alors ça, c'est très intéressant parce que pour être allé travailler sur la Côte-Nord déjà, je reconnaissais les villages de cette place-là et comment c'est difficile peut-être pour un jeune de faire sa place quand t'es pas là, puis que t'arrives aussi. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu avec avidité pour voir comment finalement cette petite fille qui arrive âgée de 7 ans avec son sac plein de ses poupées, ses choses personnelles qui déménagent là, comment elle va arriver à s'intégrer, les difficultés qu'elle va vivre, comment elle se fait intimider aussi à l'école. Bon, heureusement, il reste sa famille pour aider à grandir dans ce monde-là qui n'est pas tout à fait le sien. Et on sent qu'elle a un amour profond pour ce village-là. Tout est, comment je dirais ça, omniprésent. La mode des années 90, la manière de se coiffer, la manière de s'habiller. Donc, ces personnages-là qui gravitent autour d'elle, ça crée un petit monde qui est le sien, dont elle est fière. Et je sens qu'elle aime beaucoup la Côte-Nord puis qu'elle a voulu leur rendre hommage dans ce tableau. À la page couverture, d'ailleurs, qui est très parlante, c'est une maison qui est comme brinque-ballante, là. Ben, c'est un peu l'image de la Côte-Nord, comment ça s'est développé et tout ça. Bref, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. J'invite les gens qui ne connaissent pas la Côte-Nord à la découvrir avec Isabelle Lapointe.
Épinette, Isabelle Lapointe, un livre de 270 pages. Quelle maison d'édition?
La Mèche.
La Mèche. Merci beaucoup, Anne-Marie. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci, au revoir.
Ce qu'on parle après ça, c'est tellement beau. Maxime de Cotteret, Glenn Gould, c'est vous qui jouiez?
Exactement, c'est moi, avec ma pensée.
Wow! Alors, dès le 18 mars, c'est demain, ça?
Oui, exactement.
Le Théâtre du Rideau Vert présente Glenn Gould, Naissance d'un prodige. Et c'est à Maxime de Cotteret que l'on a fait appel pour incarner Glenn Gould, pianiste de génie canadien. Bonjour, Maxime.
Bonjour.
Le piano et vous, c'est quoi comme le rapport
moi, ça
que
reste
vous avez?
Un objet. C'est un objet qui est en dehors de moi, mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il est un peu en moi depuis le travail de répétition.
Est-ce que c'est un instrument qui vous a toujours, plu? Est-ce que ça fait partie des instruments de musique qui vous émeuvent?
Ben oui. Quand j'étais jeune, en fait, je voulais jouer du violon.
Ah oui? Oui,
j'aimais beaucoup le violon. Je trouvais que c'était un instrument qui était entre les bras, entre le cœur et la tête. Fait que je trouvais que se déposer la tête sur un instrument qui vibre au cœur, on dirait qu'il y a une grande symbolique, puis je trouvais ça beau et touchant. Alors qu'en vieillissant, j'ai l'impression que le piano, le fait de voir les notes, on dirait que c'est plus facile d'aller chercher... plus facile, je dis ça comme si c'était facile, c'est pas facile, mais...
C'est un autre lien.
C'est un autre lien.
Ouais.
Puis c'est plus facile de se détacher de la musique pour peut-être y entrer, mais... Après ça, je ne sais pas, ça reste un point de vue
oui,
de l'extérieur.
Oui, intéressant. Votre connaissance de Glenn Gould avant qu'on vous approche pour l'interpréter...
Était proche de nul. C'est-à-dire que je savais qu'il existait, mais oui. j'avais jamais écouté de façon vraiment intéressée son œuvre. Mm-hmm. Alors qu'à partir du moment où j'ai commencé à l'écouter, j'ai commencé à comprendre pourquoi. Tu sais, pourquoi Bach aussi, c'était un de ses préférés. Puis,
qu'est-ce que vous avez commencé à comprendre?
Ben, c'est la grandeur de ce qu'il fait, puis le vertige qu'il doit se soumettre pour être autant dans la technique, puis autant dans l'abandon.
Oui, dans la musicalité.
Exactement. Mais pour aller chercher cette musicalité-là, ça prend un abandon, mais ça prend une technique irréprochable, chose qu'il y avait. Il jouait plus de 5 heures par
un
jour.
Un peu comme un comédien qui doit jouer un grand rôle, votre premier rôle principal dans une production.
Ouais.
Ça prend une technique et de l'abandon.
Oui, et une confiance aveugle.
En soi.
En soi et aux autres.
Oui.
Mais, ouais.
Et comment on travaille ça?
On fait confiance au processus.
Oui, ouais. Le processus s'avance bien, j'espère bien.
Ben oui, on est à la veille de la première. Fait que,
Avez-vous hâte de présenter le spectacle?
Ben, on est rendu là.
Ouais.
Là, on
c'est
joue
bon
ça fermé sur nous. Puis à un moment donné, ça devient un peu aliénant de faire un show sans public. Mm-hmm. On dirait que c'est contre-intuitif.
Il y a quelques personnes dans la salle, mais c'est le metteur
mais
en scène.
Mais c'est le metteur en scène ou c'est les personnes rattachées au projet,
ouais.
Techniciens,
c'est
à la
public,
lumière. Non. Ben, tu sais,
c'est un autre genre de public.
C'est ça, directeur général du théâtre.
Prend des notes, lui.
Exactement. Ouais.
Le metteur en scène, c'est Frédéric Bélanger.
Exactement.
Est-ce que c'est lui qui vous a approché pour jouer Glenn
Gould? Ben, j'ai auditionné.
Ah, oh, vous avez auditionné?
J'ai auditionné.
Ça, OK, ça a été comme ça, là.
Ouais.
Ça a été un processus d'audition.
Oui, puis c'était des auditions conjointes. Moi, j'ai auditionné avec Catherine Renaud.
Oui,
qui joue dans la pièce.
Qui fait partie de la distribution.
Oui, on a auditionné ensemble. Puis après l'audition, ils sont venus me chercher dehors, puis ils ont dit « Ah, peux-tu rester pour donner la réplique à quelqu'un d'autre? » Fait que je suis resté. Puis...
Est-ce que vous aviez l'intuition que c'était dans la poche?
Ben non, non,
non.
Vraiment pas. Je me disais, hey, mon Dieu, c'est tellement hors de moi, le théâtre. On dirait que vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué.
Hors de vous, mais vous aviez quand même eu envie de vous présenter en audition.
Oui, parce que c'est ça. Moi, j'ai l'impression que mon métier, c'est pas d'avoir des rôles, mais c'est d'auditionner.
Parce qu'on et de auditionne... pas toujours être accepté non
ben,
plus d'être
c'est
pris.
Ça. On auditionne
ouais.
tellement plus qu'on a de rôles.
Ouais.
Tu sais, puis je suis chanceux, j'ai beaucoup de rôles. Je touche du bois,
ouais.
mais là, c'est de la mélamine. Là. Mais...
Il y en a derrière de vous, du bois.
Oui, bon, ça aussi, c'est du MDF.
OK, bon, vous connaissez ça. C'est vrai, vous êtes ébéniste.
Un peu, oui. Ouais.
Alors, on ne peut pas vous en passer.
Non.
Alors, donc, vous avez été accepté à l'audition.
Oui.
Et il y a quelqu'un qui joue du piano. Là. C'est pas... Comment ça se passe sur la scène? Parce
qu'il y a
le Glenn Gould
Lépine.
Qui parle, le Glenn Gould qui joue du piano.
Le metteur en scène a séparé l'aspect musical de la vie du pianiste. C'est-à-dire qu'il y a le pianiste puis il y a l'humain derrière le pianiste. Donc, il y a deux univers qui vont cohabiter pendant la pièce. Donc, ça donne un côté onirique puis un côté plus... c'est comme si...
Est-ce qu'on est dans le biopic?
Ben, plus ou moins, c'est-à-dire que c'est une représentation quand même assez calquée sur sa vie, sur les faits de sa vie, mais évidemment, il y a eu quelques libertés de prise par l'auteur. Parce que
l'auteur
ça reste
est un Français. Hein?
Calbérac, oui. Oui. Ivan Calbérac.
Et cette production-là a connu beaucoup de succès
oui.
à sa sortie, à sa création,
oui.
je pense
ils ont
que c'était en
des
2022.
Aussi.
Ouais, ouais. Ouais. Et est-ce que vous l'avez vu, cette pièce-là, cette production-là?
J'ai pas vu, non, parce que c'était la pandémie aussi.
Oui.
C'est ça,
oui.
rappelons-nous de
ça. Ça n'a pas été filmé, vous n'avez pas pu avoir
oui,
de
ben,
documents.
Oui, j'ai vu des extraits, oui, okay. j'ai vu des extraits.
Ouais.
Oui, c'est autre chose.
Oui, c'est autre chose.
On est ailleurs,
oui. Ouais. Et le Glenn Gould, dont québécois, il ouais. est mort à quel âge, Glenn Gould?
Dans la cinquantaine, très proche.
Mmh. Oui.
Très, très, ouais, début cinquantaine.
Et il y avait une façon, on parlait là, de la partie plus onirique, ça, c'est la partie où on va entendre de la musique. Est-ce qu'il y a beaucoup de musique dans cette pièce-là?
Mon Dieu, c'est pratiquement que ça. C'est beau, c'est très beau. Oui, on a cette chance inouïe de pouvoir se calmer. Tu sais, on l'a vécu, toi et moi.
Ouais.
On entendait l'aria juste quand je suis arrivé, puis...
Des variations Goldberg
des variations
de
Goldberg
par Glenn Gould.
Par Glenn Gould. C'est... Il y a quelque chose d'hypnotisant dans cette musique-là.
Mais quand, c'est quoi votre posture, ou en tout cas votre en tant que Glenn Gould qui ne joue pas du piano?
Mm-hmm.
Là, il y a Gaël Lépine
ouais.
qui, lui, s'occupe de la partie musicale. C'est un vrai pianiste.
Oui, puis qui est extraordinaire.
Et vous, vous êtes où sur la scène pendant qu'il joue? Comment ça se passe?
Ah, ben là!
Quoi? C'est une surprise!
Je ne dirais pas tout, mais je suis sur la scène aussi. En fait, on est les deux sur la scène. On est les deux sur la scène. On cohabite. On est
Est-ce
le
que
double.
Vous tournez les pages de sa partition?
En fait, Glenn n'avait pas vraiment de partition.
Oui.
Il apprenait tout parce que c'était un technicien, mais c'est que c'est un soliste aussi. Il mm-hmm. faisait tout parce qu'il.
C'est un créateur.
Ben oui. Mais il y avait ça dans le sang puis dans le corps.
Ouais.
Il savait qu'est-ce qu'il faisait.
Et certains diront qu'il y avait des tics. Mais comment vous l'interprétez? Parce qu'il parlait ou... Je ne sais pas, est-ce qu'il commentait ce qu'il était en train de jouer?
Je pense que c'est une genre de transe. C'est-à-dire qu'il y avait cette... La musique le transportait complètement dans un autre monde. Puis je pense que...
Est-ce qu'il oubliait le public?
Ah, non, c'est le public qui le ramenait tout le temps. En fait, c'est pour ça qu'il a arrêté la scène. C'est parce que le public, pour lui, c'était impensable de jouer devant un public. Parce que les gens bougent, les gens vivent.
Ah oui.
Puis à un moment donné, il a même pensé créer une salle où c'était interdit de parler, de bouger. Il voulait faire ça. C'était son mode de spectacle.
Il viendrait fou aujourd'hui, là, avec les cellulaires.
Ah oui, oui. Oui, oui.
Etc.
Etc. Oui, oui.
Oui. Et vous, les bruits, est-ce que ça vous rend comme ça un peu,
ouais, ça me
un
sort.
Peu dingue?
Oui.
Ouais.
Ben oui, ça me.
Ça déconcentre.
Ça déconcentre. Mais même dans
Il y a
ma
un
vie...
quatrième mur, mais les gens, on dirait, pensent pas que les comédiens ou comédiennes soient au courant de ce qui se passe dans
on
la
sait
salle.
Tout. Parce que sur scène, il y a quelque chose qui s'aiguille plus. On dirait qu'on a les sens aiguisés.
Oui.
Il y a quelque chose qu'on on est en situation d'alerte. On devient hyper sensible, on voit tout, on entend tout. Fait que
donc,
évidemment que c'est déconcentrant des fois. Fait que c'est un travail de toujours se ramener pour... Mais il faut en même temps écouter le public parce que c'est un indicateur.
Ouais.
C'est ça. C'est un autre personnage,
ça.
Le public.
Le public aide et quelquefois peut nuire jusqu'à un certain point. Ouais.
Tout à fait.
J'imagine que le directeur artistique Benoît Méguénis va peut-être demander au public d'être encore plus à l'écoute dans ce genre de spectacle-là?
Ben non. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux gens. C'est-à-dire que s'il y en a qui toussent, ben ils toussent.
Ouais.
Si,
mais quand tu tousses pendant 15 minutes, à un moment donné, il faut que tu sors.
Oui, c'est ça.
Ben, 15 minutes, c'est exagéré.
C'est exagéré,
ouais.
Oui, oui.
Une minute.
En même temps, c'est pas, ben ces gens-là n'ont pas choisi de s'étouffer. T'sais.
Non, 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 non.
Ouais.
Non, mais ils peuvent choisir de se lever quand même.
Et tout à fait.
Dans cette pièce-là, il est question de pression parentale.
Mm-hmm.
Oui. Est-ce que c'est... Parce que aussi Glenn Gould, il avait une personnalité particulière. Là.
Ouais.
Vous parliez de son contact avec le public avec lequel il ne voulait pas avoir nécessairement de contact. Lui, il présentait sa musique. Mais quel genre de personne c'était?
Ben, Aujourd'hui, il serait sûrement diagnostiqué avec un dans le spectre. Il serait
de
sûrement
l'autisme.
Probablement. À l'époque, c'était pas.
Il n'y a jamais eu
pas
de diagnostic.
Non, non, mais c'est ça. À l'époque, il n'y en avait
ouais,
pas vraiment.
Non, on n'en parlait pas.
Mais tu sais, il y avait certaines mandouances ou l'oreille absolue, ça c'est certain. Mm-hmm. À l'âge de 3 ans, il y a eu ce diagnostic-là, en fait, qui avait l'oreille absolue.
À 3
souvent,
ans.
Mais c'est ça, je lisais que il faut que ça se développe très jeune. Paraîtrait-il que c'est impossible de se développer à l'âge adulte?
Ah!
Parce que ça prend une rigueur musicale très jeune.
OK. Moi, je pensais que c'était quelque chose d'inné.
C'est inné, mais il faut le travailler, je pense.
Ah!
Pour que ça devienne... pour qu'il puisse reconnaître.
Ça s'intègre.
Ça s'intègre dans le corps.
Vrai. C'est ce que je disais. L'avez-vous, Maxime de Cotterêts?
Je pense pas. Quoique je suis très irrité par certains sons, mais...
Oui, mais c'est vrai. Je pense que vous en parlez aujourd'hui hein, dans la presse, ça se peut-tu?
Ah, ça se peut.
Ou il y a peut-être quelqu'un d'autre qui parlait de son... des sons qui pouvaient déranger. Là, je me mélange parce que je lis beaucoup, beaucoup de choses.
Oui,
là,
oui, j'imagine.
Mais vous êtes dans la presse, en tout cas,
oui,
aujourd'hui.
Oui, ce matin, oui.
Oui, oui, où vous parlez.
Un formidable article
oui,
de Luc
vraiment,
Blanger,
on ouais. apprend à vous connaître. Hein?
Oui.
Oui, oui, on apprend à connaître ouais. Maxime de Cotterêts, le comédien, mais aussi l'être humain.
L'être humain derrière l'être humain.
Oui, qui a passé par toutes sortes d'étapes de vie.
Oui.
Ouais. Là, ça va bien parce que on évoque une grande dépression.
Oui, mais tu sais, la dépression, c'est un mode d'emploi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, pour moi, en fait, de mon expérience, ça m'a aidé à toujours rester humble puis toujours rester derrière les événements. C'est-à-dire de pas... Ouais, c'est un sujet qui, pour la radio, c'est long quand même.
C'est intéressant.
Mais c'est que c'est un long sujet, puis ça demande, ouais. ça demande quand même du temps. Puis de.
Mais rester derrière les événements, ça veut dire...
Ça veut dire de prendre un pas de recul.
Oui,
de pas...
rester objectif.
Oui, mais tu sais, l'expression « tourner sa langue cette fois avant de parler ouais. », j'ai l'impression que ça m'a donné un peu cette... ça m'a donné un peu ce...
Cette manière d'appréhender le monde.
Ouais, d'aborder ma vie aussi, c'est de prendre un temps... Je suis lent. Je suis quelqu'un qui est lent.
Ouais.
Puis qui a besoin de cette lenteur-là pour m'exprimer ou pour,
ouais.
pour
vous dites
analyser
pas
les choses. Ben, j'ai pas envie de.
Non.
Je dis n'importe quoi. Souvent, je suis un clown ou je suis un peu niaiseux. Ça, je l'assume. Mais c'est ma façon de me protéger aussi. Alors que ma sensibilité, ben, on dirait qu'il y a des sujets qui demandent une retenue ou qui demandent une plus grande mm-hmm. analyse. Des sujets plus délicats, par
Donc,
exemple.
Donc, cette dépression vous a donné un peu plus de maturité?
Oui, je pense que oui.
Entre autres?
Ouais.
Entre autres choses?
Ben, ça m'a donné surtout peut-être une vision qui est peut-être plus sensible des événements ou des gens. Ou on a chacun notre narratif.
Mm-hmm.
Puis quand on croise des gens ils irritent ou ben, ils vivent eux autres aussi quelque chose. Ou,
plus d'empathie.
Plus d'empathie, oui. Ouais. C'est ça.
Et Glenn Gould, comment vous avez fait pour entrer dans sa peau? C'est quoi sa principale caractéristique là, pour le rendre pertinent, crédible comme personnage?
J'ai l'impression de ne pas entrer dans sa peau, mais j'ai plus l'impression d'avoir fait une place en dedans de moi
okay.
pour l'accueillir. Ouais. C'est une question de perception aussi, puis de perspective, mais j'ai l'impression que en y faisant une place, c'est comme si j'allais réveiller une partie de moi qui s'apparente à l'image que je me fais de ce que Glenn a été.
Parce Glenn? Que, ah oui, c'est le nom de votre chat aussi.
Mais oui. Oui, il est fatiguant de ce temps-ci. Il sent, je ne suis pas souvent là, fait qu'il le sent.
Non, mais est-ce qu'il s'appelait Glenn avant que vous soyez...
Je l'ai eu la journée où j'ai appris que j'avais le rôle. Fait que j'avais pas le choix.
Est-ce qu'il entend les variations Goldberg?
Il entend tout. Il entend tout.
Oui. Ouais. Est-ce que vous écoutez beaucoup de Glenn
beaucoup de
Gould?
Musique.
Et vous, avec Glenn, est-ce que vous en écoutez beaucoup du Glenn Gould?
Oui, mais on a écouté ensemble pas mal tout ce qui se fait sur Glenn.
Oui.
Le film de François Girard, par exemple. Il y a des archives incroyables. Arte ont beaucoup d'archives sur Glenn Gould. C'est fascinant ce qu'on peut trouver.
On parle donc de son enfance, on parle de sa mère. Sa mère, qui incarne sa mère? C'est
Daniel
Proulx.
Oui.
Ça doit être vraiment intéressant de jouer avec
Daniel,
agréable.
Agréable, mais c'est une femme, nuancée, généreuse.
Qui s'abandonne.
Précise, qui s'abandonne, oui. Mm-hmm. C'est un grand privilège de jouer avec elle.
Donc, il y a elle, Catherine Renaud.
Catherine Renaud.
Le pianiste dont on parlait tantôt, Gaëlle.
Gaëlle. Il y a Étienne Pilon, François-Simon Poirier et mon papa.
Oui, Henri Chassé, Henri Chassé, qu'on recevait récemment.
Oui, c'est vrai.
Oui, oui, oui. Tu parlais d'une autre production, Théâtre du Rideau Vert. Oui,
qui faisait la mise en scène.
Oui.
À toi pour toujours.
À toi pour toujours, ta Marie-Lou. Et puis, nous aussi, nous parler d'une représentation là, pour les personnes malentendantes ou sourdes.
Oui.
Oui.
Puis, il me contait que c'est toujours une représentation qui est spéciale puis qui rend les gens fébriles parce qu'ils n'ont pas la chance de découvrir l'art de la même façon que nous. Puis quand ça arrive, il y a réellement quelque chose qui se produit sur scène.
Le Rideau Vert fait beaucoup pour toutes les personnes en situation de handicap, là,
exact.
Leur ouvrir les portes et leur donner accès à l'art.
Tout à fait.
Alors vous, vous disiez que ça faisait longtemps là, que vous, parce qu'on vous voit beaucoup à la télévision, Maxime de Cotteret, mais cette année, c'est comme votre année théâtrale. Il y a Glenn Gould qui est présenté jusqu'à la mi-avril, 18 avril. Et puis il va avoir aussi le Comte de Monte-Cristo. D'après l'œuvre d'Alexandre Dumas, mise en scène par Serge Denoncourt, est-ce qu'il y a eu des auditions pour ce rôle-là?
Non, j'ai eu un coup de téléphone. Tout bonnement, j'allais tourner sur D'autres raisonnables. Puis,
Vous faites le méchant dans D'autres raisonnables.
Ouais, méchant. Mais oui. Mais
vous êtes moins sympathique que le vrai Maxime de Cotteret.
Pas mal, oui. Cédric Laramé, disons qu'il ne donne pas sa place en termes de pas fin.
Alors, on vous a appelé, puis on vous a dit...
Oui, puis moi, j'ai pas de main libre dans l'auto, fait que j'ai dit « Je te rappelle ». J'ai répondu, puis je ne savais pas c'était qui. J'ai juste dit « Je te rappelle ».
On vous a répondu, j'espère, quand vous avez rappelé?
Oui, oui. Oui. Je me stationne, je te rappelle.
Et ça a fonctionné.
Oui.
Bien, alors, on y reviendra peut-être. Vous viendrez peut-être nous parler de ce rôle-là. Mais je me demandais si les planches vous manquaient pour accepter deux projets de théâtre la même année.
Évidemment. Mais tu sais, après ça, j'avais l'impression que c'était... plus quelque chose de possible, le théâtre. Fait que j'ai pelleté ça dans le futur, peut-être un jour.
Parce que vous avez quand même une formation de comédien à l'École nationale de théâtre.
Oui, c'est ça.
Qui date de quoi, une quinzaine d'années?
2011, j'ai fini.
Oui, 15 ans.
2007 à 2011,
Wow.
Ça fait déjà... Tu sais, je viens d'entrer là, à l'école.
Oui.
Puis c'est fou, le temps passe tellement vite.
Ça me fait bien plaisir de faire votre connaissance, Maxime de Cotteret. Les auditeurs et auditrices de Canal M seront aussi heureux. Et on invite les gens à aller vous découvrir.
Venez.
Glenn Gould, Naissance d'un prodige. Ça prend l'affiche le 18 mars et ce jusqu'au 18 avril. Je serai dans la salle lundi prochain et je vais en reparler avec grand plaisir. Alors, on vous dit merde.
Je le prends.
On se laisse sur du bac. Merci à tout le monde. À demain.